Nous avons commencé, j'ai commencé à vous proposer de méditer sur l'épître, la première épître de Jean, et j'aimerais vous proposer de poursuivre la méditation de l'épître de Jean, et nous allons lire à partir du verset 5 du premier chapitre, nous lirons jusqu'au chapitre 2, verset 2. La première épître de Jean, verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même et dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, ne purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner ni nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jusqu'ici, notre lecture. Passé le zèle des premiers temps après notre conversion, après notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, nous nous rendons compte que la vie chrétienne n'est pas si facile que cela, notamment face au péché, notamment dans le combat face à des anciennes habitudes qui veulent à tout prix rester collées à notre peau. Dans notre cheminement avec le Seigneur, il nous arrive de faire des choses que nous regrettons par la suite. Il nous arrive d'avoir honte de certaines choses dans notre vie. Et même parfois, nous sommes désespérés face à de mauvaises habitudes qui reviennent régulièrement, dont nous avons du mal à nous débarrasser. Et pourtant, nous sommes une nouvelle création. Et pourtant, nous avons l'Esprit de Dieu qui habite en nous, dans notre vie. Comment vivre notre vie de repentance, de combat contre le péché d'une manière juste, d'une manière éclairée et d'une manière réaliste. Dans le texte que nous venons de lire, en effet, Jean nous donne quelques repères, nous donne quelques principes nous permettant de vivre à la lumière du Christ, une lumière qui nous permet d'apporter notre péché devant la croix, de confesser notre péché pour recevoir le pardon de notre Père. Pour introduire son message, Jean rappelle ce qu'il avait déjà dit, développé dans les premiers versets de son épître, et il le dit d'une manière très claire, sans aucune ambiguïté, à savoir que le message qu'il annonce, le message qu'il apporte avec les autres apôtres, n'est autre que celui du Christ lui-même. C'est le message de son Seigneur, de Jésus-Christ, qu'il annonce, qu'il nous annonce. Et pour ne pas laisser de place au doute, Jean rappelle que son message vient de la source directement. Il le tient de la première main. Aucun intermédiaire entre le Christ et lui. C'est lui-même qui a entendu ce que Jésus a dit. Ce qu'il dit, Jean dit ce qu'il a entendu de son maître, ce qu'il a vu, ce qu'il a touché de ses propres mains. C'est donc un témoin oculaire qui nous parle ici dans ces passages. C'est un témoin oculaire qui nous transmet ce message de Christ. Quel est le message? Quel est le message en question? C'est simple, Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Bien que cette déclaration ne se trouve pas comme telle dans l'Ancien Testament ou dans les Évangiles, la Bible n'a cessé de révéler en effet que Dieu est lumière. Dieu est lumière dans son être, il est parfaitement vrai, il n'y a point de mensonge en lui. Il est parfaitement pur. Il n'y a point de péché en lui. Il est infini, dans toutes ses perfections, dans toute sa plénitude. Cette présentation de Dieu de lumière tranche avec celle qu'avaient justement les contemporains de Jean, notamment tous ces païens qui avaient leur Dieu au premier siècle, souvent influencé par la mythologie grecque et romaine. Le Dieu de lumière dont parle Jean est différent de tous ces dieux adorés dans ce monde gréco-romain. Ces dieux qui pouvaient se tromper, qui pouvaient tromper, mentir, des divinités licencieuses, des divinités moralement corrompues, qui pouvaient aussi être méchantes, les unes vis-à-vis des autres, ou encore vis-à-vis des êtres humains. Et des divinités qui se querellaient, des dieux qui se querellaient entre eux. Ces dieux sont à l'image de ceux qui les ont fabriqués, de ceux qui les adoraient. Ils étaient simplement à un degré un peu plus supérieur de bonté, de cruauté, de pureté, de corruption. Mais c'est clair, nous avons affaire dans ces idoles-là à un mélange entre lumière et ténèbres. Le Dieu dont parle Jean n'a rien à voir avec ce mélange de lumière et de ténèbres. Il n'y a point de ténèbres en lui, dit clairement Jean. Il est lumière dans sa majesté, il est lumière dans sa splendeur, dans sa gloire. Il est parfait dans sa pureté, dans sa sainteté. Il l'est aussi dans son amour, dans sa vérité, dans tout ce qu'il a manifesté envers nous, comme nous venons de le chanter de bien des manières. Si ce Dieu, habitant une lumière inaccessible, qui a choisi de se révéler à nous, et comme le propre d'une lumière, c'est de briller, le Seigneur aussi rayonne, manifeste sa lumière envers nous et de diverses manières. Comme Dieu est lumière, sa parole l'est aussi. Sa parole est lumière dans la mesure où cette parole n'est autre que la manifestation, la révélation de ce Dieu de lumière. Et la révélation de Dieu dans sa loi, les prophètes, est décrite en effet en termes de lumière. Nombreuses déclarations dans la Bible qui qualifie la loi de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, qui la qualifie de lumière. Le passage probablement le plus connu, grâce à un chant que nous aimons chanter beaucoup dans notre Église, c'est ce verset 105 du psaume 119. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et c'est dans le même chapitre, au psaume 119, au verset 130, le psalmiste écrit « La révélation de tes paroles éclaire. » Elle donne de l'intelligence au simple. Il y a encore bien d'autres passages dans la Bible qui qualifient cette parole que le Seigneur nous a laissée comme la lumière qui révèle le Seigneur, le Dieu de lumière, la source. Mais si autrefois Dieu a parlé par les prophètes, dans les jours, ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce Fils qui est le rayonnement justement de la gloire de Dieu, qui est l'expression de son être, ce Fils est présenté dans les Évangiles comme cette lumière venue dans le monde, lumière promise dans l'Ancien Testament par les prophètes pour mettre fin justement aux ténèbres qui recouvrent la terre. C'est ainsi que Jésus, lors de sa présentation au temple, au huitième jour de sa naissance, il est présenté comme la lumière pour éclairer les nations. C'est aussi cet aspect-là de lumière que Matthieu va mettre en évidence lorsqu'il présentera le début du ministère de Jésus en disant et qu'il est cette grande lumière qui est venue éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres. Mais c'est l'évangile de Jean, et ce dès les premiers versets, qui nous présente Jésus comme la véritable lumière venue du ciel sur la terre pour éclairer tout homme. Et au chapitre du même évangile, au chapitre 8, Jésus déclare « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dieu est lumière et il s'est manifesté comme tel dans sa parole, pleinement pleinement, parfaitement dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître Dieu, c'est connaître ce Dieu de lumière. C'est le message que Christ a transmis aux apôtres dans Jean et que nous recevons maintenant de la part de Jean ici, dans ces versets. Recevoir un tel message n'est pas sans implication. Connaître Dieu de lumière ne nous laisse pas sans changement ni transformation. Il y a des implications, de réelles implications, des implications concrètes dans la vie de ceux qui connaissent ce Dieu de lumière. D'abord, ils ne marchent pas dans les ténèbres, ce qui est tout à fait logique, à vrai dire, car marcher à la lumière de Dieu nous conduit tout naturellement à loin des ténèbres du monde. Seulement, certains contemporains de Jean ne l'entendaient pas du tout de leurs oreilles. Ils considéraient qu'ils pouvaient justement prétendre être en communion avec Dieu tout en vivant dans la chair, en se livrant aux pratiques dégradantes de l'homme sans foi ni loi. Parmi ces personnes, il y avait certains gnostiques qui considéraient que le corps comme une enveloppe, une simple enveloppe renfermant l'esprit humain. Et ils affirmaient que l'esprit de l'homme était inviolable. Il ne pouvait, donc cet esprit de l'homme ne pouvait être contaminé par les actes ou les actions du corps. Et ces personnes donc séparaient tellement l'esprit du corps qu'elles considéraient qu'elles pouvaient être en communion avec Dieu par leur esprit et en communion avec le monde par leur corps, et livrer donc leur corps aux ténèbres. D'autres personnes encore, de tendance spiritualiste et mystique, considéraient qu'elles pouvaient être justes et bonnes dans leur esprit sans forcément pratiquer la justice par leur corps, par leurs actes. Et dans ces deux cas, nous nous retrouvons là devant des personnes qui pensent connaître Dieu, vivre avec Dieu, mais sans traduire concrètement cette connaissance par des actes au quotidien. Cette manière de considérer les choses risque aussi de ne toucher nous dans notre manière de vivre notre foi chrétienne. Il m'est arrivé ici ou là d'entendre des témoignages, heureusement pas très nombreux, mais des chrétiens de nos jours qui disent, qui soutiennent l'idée selon laquelle ils sont connectés, liés à Dieu par leur esprit, mais que leur corps est tout simplement peut être livré à n'importe quelle pratique, y compris des pratiques complètement à l'encontre de la parole de Dieu. Il nous faut ici entendre ce que Jean déclare justement au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec ce Dieu de lumière et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Notre communion avec Dieu se voit dans notre vie, dans nos choix, dans les actes que nous posons, et ce, tous les jours, quotidiennement. Nous ne pouvons pas dissocier notre vie de notre pratique, de notre morale. Notre morale doit être fondée et éclairée par notre foi. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons une relation riche et profonde avec Dieu alors que notre vie est dissolue, corrompue, nourrie des pratiques honteuses. Nous sommes appelés à connaître Dieu non seulement par esprit entre guillemets, mais avec tout notre être, y compris notre corps, qui doit être offert comme un sacrifice vivant et agréable pour notre Seigneur. De la même manière, nous ne sommes pas appelés à connaître Dieu verbalement, seulement avec des paroles, mais aussi pratiquement. Il ne s'agit pas seulement de professer la foi, notre foi, d'écouter la parole de Dieu, mais d'y obéir activement et pratiquement, concrètement. Nous devons savoir que si nous vivons, nous pratiquons une vie, nous pratiquons une vie qui n'est pas fondée sur l'Évangile, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec le Seigneur. Autrement, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité, nous dit l'apôtre Jean. Ainsi, par des vies inconséquentes, non seulement ne pratiquons pas la vérité enseignée dans la Bible, mais aussi nous mentons. Mais aussi nous menons une vie qui est contre la vérité qui est enseignée dans l'Évangile. Si nous connaissons le Seigneur, si nous sommes en communion avec lui, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière, comme lui-même, Christ, a marché dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est mener une vie qui cherche à plaire au Seigneur, une vie fondée sur les valeurs bibliques, une vie qui exprime concrètement les vertus de l'Évangile. C'est cette vie qui exprime l'amour de Dieu, l'amour du prochain sous différentes formes. Et elle l'exprime non seulement en parole ou encore en esprit, mais en acte et en vérité. C'est cette vie-là que nous sommes appelés à mener avec la présence et avec l'assistance de l'Esprit-Saint. L'exemple que nous avons sous les yeux n'est autre que celui de notre Seigneur lui-même, lui dont la communion avec son Père s'est manifestée concrètement par une obéissance totale à son Père. Lui, bien qu'il soit tenté en toutes choses, n'a pas commis de péché. Il est resté, il a obéi à son Père. Marcher dans la lumière comme Christ a marché dans la lumière, c'est vivre réellement la communion avec Dieu. Vivre dans le péché, pratiquer le péché, cela empêche la communion avec Dieu. Mais rejeter le péché qui frappe à notre porte régulièrement, rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est marcher dans la lumière et la communion avec Dieu. Vivre en communion avec Dieu, cela conduit à la communion avec les frères et sœurs. Avoir Dieu pour Père, c'est avoir des chrétiens comme des frères et sœurs dans la foi. Notre communion avec le Père implique notre communion des frères avec les sœurs. Et là aussi, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en communion avec Dieu, avec le Père, si nous refusons d'être en communion avec les frères et sœurs. Et Jean écrit un peu plus tard, celui qui prétend être dans la lumière et tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. C'est au chapitre 2, au verset 9. Les faux docteurs, justement, du temps de Jean, enseignaient à leurs adeptes de se séparer des chrétiens, de ne pas avoir des relations avec les autres chrétiens. Mais l'enseignement de Jean, ici, est clair. C'est de dire que les vrais chrétiens, au contraire, ceux qui marchent dans la lumière, sont aussi en communion avec les autres chrétiens, avec les autres frères et sœurs. Dans une moindre mesure, nous devons nous aussi y faire attention sur ce point. Des chrétiens pensent vivre la communion avec Dieu sans avoir la communion avec les frères et sœurs. Mais cela, nous dit Jean, est tout simplement pas possible. Nous devons veiller et faire attention. Et nous entendons, hélas, de plus en plus des personnes dire « J'ai une belle communion avec le Seigneur, mais sans avoir aucune communion avec les frères et sœurs. » Enfin, un dernier élément à souligner pour ceux qui marchent dans la lumière, c'est-à-dire ceux qui sont en communion avec Dieu et avec les frères et sœurs, c'est le fait de marcher dans la lumière. Le fait de marcher dans la lumière ne veut pas dire mener une vie parfaite, une vie sainte, totalement sainte, ici-bas et maintenant. L'apôtre Jacques nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Et le Nouveau Testament nous dit aussi que c'est dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que le péché n'aura pas le droit de citer. Mais ici-bas, nous sommes tentés à longueur de journée. Nous aurons affaire à la violence du péché qui frappe à notre porte. Nous aurons à résister aux faiblesses et aux attirances mauvaises de la nature humaine. Et dans notre cheminement présent, il nous arrivera certainement de pécher contre Dieu en pensée, en parole et en acte. Voilà pourquoi Jean nous dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, au verset 7. Le Seigneur ne se contente pas de nous pardonner, il nous pardonne, mais il ne nous pardonne pas seulement, mais il nous purifie, il efface, il nettoie la sueur de notre péché. Il faut noter ici que le verbe employé est employé au présent, une manière de dire le Seigneur continue à le faire, ce n'est pas simplement ce qu'il avait fait à la croix, mais il continue à le faire encore aujourd'hui. Dans notre vie de chaque jour, il continue à pardonner, purifier les péchés qui sont confessés, apportés à la lumière du Christ. sur ce chemin de sanctification, le Seigneur continue à nous purifier, à nous transformer et à faire de nous des enfants dignes de la vocation qui nous a été adressée. La différence entre ceux qui marchent dans les ténèbres et ceux qui marchent dans la lumière, c'est le fait que ceux qui marchent dans la lumière reconnaissent leurs péchés et les apportent au pied de la croix pour implorer le pardon de Dieu et recevoir ce pardon de leur Père. Certains faux enseignants, pardon, au temps de Jean, auxquels Jean s'oppose dans cet épître, vont encore plus loin dans ce qu'ils affirment, dans leurs prétentions concernant le péché. Ils prétendent qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils ne sont pas touchés par la réalité du péché. Si certains donc prétendent que Dieu prétendent connaître Dieu, être en communion avec Dieu tout en vivant dans le péché, c'est au verset 6, les gens évoqués au verset 8 vont encore bien plus loin dans leur raisonnement. Ils prétendent qu'ils ne sont pas touchés par le péché, qu'ils ne sont pas pécheurs. Ces personnes qui ne se reconnaissent pas pécheurs ne peuvent même pas être malheureusement au bénéfice du sang purificateur de Jésus. Car pour saisir les bienfaits du sang purificateur de Jésus, il faut reconnaître son péché. Mais si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous ne pouvons pas chercher le moyen que Dieu a prévu pour nous purifier, à savoir le sang de Jésus. C'est comme une personne malade qui refuse sa maladie tant qu'elle se persuade en bonne santé, elle n'ira jamais voir le médecin et par conséquent ne sera jamais au bénéfice d'un traitement approprié. La personne nie sa maladie et par conséquent elle n'éprouve aucun besoin de se faire soigner. La Bible décrit que tous les hommes sans pécheur est privé de la présence glorieuse de Dieu. Le péché touche l'être humain non seulement à sa naissance, comme le prétendent certaines religions, encore certaines philosophies, certains enseignements, mais dès la conception. Et le péché marque le cœur humain d'une manière grave. Le prophète Jérémie ne fait cette déclaration, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Et franchement, il suffit de regarder la presse ou de lire la presse ou de regarder les journaux télévisés pour nous rendre compte que franchement le cœur de l'homme est loin d'être bon comme on a voulu nous le faire croire. Ceci dit, voilà pourquoi pour Jean dire nous n'avons pas de péché et en plus d'être choquant est simplement un mensonge. Refuser sa nature pécheresse, c'est vivre dans le mensonge, c'est rejeter la vérité. Et de nos jours, certains pensent aussi qu'ils sont bons et qu'ils n'ont pas grand-chose à se reprocher, même devant Dieu. Les bases d'un tel raisonnement peuvent être diverses, et je pense ici en particulier à des religieux ou des mystiques qui pensent atteindre un point de sainteté, de pureté, au point de se considérer qu'ils ne sont plus, qu'ils ont quitté la nature pécheresse, qu'ils ne peuvent plus être touchés par la nature de pécheresse. D'autres encore se considèrent qu'ils sont corrects, ils ne volent pas, ils ne font pas de mal, ils aident les autres quand ils peuvent, donc pour eux, tout est bon. Ils ne sont pas vraiment touchés par la question de péché. La question de péché concerne ceux qui reconnaissent leur péché, mais eux, c'est nickel. Mais un tel langage ne séduit à vrai dire que les personnes qui le tiennent. C'est un langage qui flatte l'ego de la personne, mais qui fait passer quand même à côté de la purification, du pardon que Dieu accorde en Jésus-Christ. C'est bien de passer notre temps à nous persuader que nous ne sommes pas malades, mais un jour la maladie finira par nous rattraper. Voilà la raison pour laquelle il me semble, chers amis, en tout cas si l'un ou l'autre parmi nous se trouve dans cette situation, considérant qu'il n'est pas concerné par la question du péché, j'aimerais vous inviter à bien réfléchir à ce que la Bible déclare à ce sujet, à savoir que tous les hommes sont marqués par le péché. Et l'autre déclaration bienheureuse de la Bible aussi, c'est le fait que le sang de Jésus peut nous purifier. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Et cette promesse au verset 9 est aussi valable pour pour vous, pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui se tournent vers le Seigneur et qui reconnaissent, bien entendu, leurs péchés. L'attitude lucide à laquelle Jean nous invite consiste à reconnaître non seulement notre nature pécheresse, mais aussi nos péchés, nos transgressions, nos désobéissances à Dieu. La lucidité consiste à accepter ce que Dieu déclare à notre sujet et reconnaître ainsi la vérité à notre égard. Si nous reconnaissons notre péché, nous avons là une double promesse de la part de notre Dieu. D'une part, le pardon de nos péchés et d'autre part, la purification de toute injustice. D'une part, le Seigneur nous remet notre dette. Nous n'avons plus à payer pour cette dette, pour ce péché. Et d'autre part, il nous enlève notre injustice. Telle est cette belle promesse que le Seigneur nous fait ici. Le Seigneur nous accorde ce pardon. Il nous enlève notre péché sur la base du prépayé, comme nous l'avons chanté par Christ à la croix. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, expiatoire, afin de montrer sa justice dans le temps présent, d'une manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Dieu donc n'a pas choisi de passer l'éponge sur notre péché, mais à la manière d'une grâce présidentielle, mais il a envoyé Jésus. Et il a pris le pays fort, le prix de notre désobéissance, le prix de notre péché. Ainsi, Dieu reste juste tout en nous accordant son pardon et sa justice, son pardon et sa justice à ceux qui reconnaissent leur péché et qui acceptent cette œuvre de Christ à la croix. Dieu restera fidèle à la promesse qu'il s'est faite de nous pardonner. Voilà pourquoi nous pouvons toujours venir, revenir et revenir à lui pour obtenir le pardon de notre péché. Cette promesse est valable pour celui qui s'approche pour la première fois du Seigneur, mais elle est aussi valable pour nous qui revenons et revenons et revenons vers le Seigneur après notre péché, après notre péché pour une énième fois. Le Seigneur nous invite à confesser notre désobéissance, à reconnaître notre transgression, notre péché comme tel, à l'apporter devant lui à sa lumière. Il nous pardonne. Nous avons là une source d'encouragement, vraiment une source d'encouragement dans ce passage que nous ne devons surtout pas oublier lorsque surtout nous tombons, nous désobéissons au Seigneur. Il est fidèle et juste, nous dit l'apôtre Jean, pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Telle est la promesse que nous devons garder, surtout à ne pas oublier dans notre cheminement avec le Seigneur. Ne soyons pas donc comme la troisième catégorie de personnes que Jean évoque au verset 10. Ces personnes-là se considèrent tellement spirituelles, tellement éclairées, saintes, qu'ils ne tombent jamais dans le péché. Cette troisième catégorie de personnes, à vrai dire, reconnaissent que le péché peut éloigner de Dieu, ce que ne reconnaissent pas les gens du verset 6. Ces personnes-là reconnaissent aussi que la nature humaine est pécheresse, ce que ne reconnaissent pas les personnes du verset 8. Mais leur problème, c'est de se considérer tellement saints qu'ils ne pêchent plus. J'en dis clairement. Ne pas reconnaître notre péché, c'est tout simplement prendre Dieu pour menteur et sa parole n'est pas en nous. Car Dieu dit dans sa parole, et ce à plusieurs reprises, que nous sommes tous pécheurs. Non, il n'y a pas un seul homme sur terre juste qui ne fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui nous le dit au chapitre 7. Ou encore le psalmiste, tous sont égarés, sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Comment se fait-il que certaines personnes qui fréquentent les églises chrétiennes, autant de gens prétendent arriver à un stade de sainteté, de pureté, qu'elles ne pêchent plus? Jean nous dit de faire attention à nous-mêmes, de ne pas tomber dans ce piège d'autosatisfaction spirituelle et de ne pas nous laisser égarer par quelque illuminé que ce soit sur cette voie sans issue. Ce n'est pas parce que nous avons une vie de consécration que nous passons du temps dans la prière et que nous lisons notre Bible et faisons tout le bien que nous pouvons le faire que nous ne péchons plus. Choc nous dit, nous tombons tous d'une manière ou d'une autre. Certains pourraient justement accuser Jean d'encourager les chrétiens à pécher avec ce raisonnement, avec ce discours. Et pourtant, Jean dit clairement que son objectif en écrivant ces passages, justement, c'est pour que les chrétiens mènent une vie de sanctification, pour que ses enfants, pour que les chrétiens ne pêchent plus. Mais en même temps, Jean est très réaliste. Il sait que ces chrétiens, qu'il appelle d'ailleurs très affectueusement, tendrement, mes petits-enfants, il sait qu'ils vont continuer, hélas, à tomber dans le péché d'une manière ou d'une autre. Au lieu donc de faire la politique de l'autruche qui consiste à nier la réalité présente du péché, Jean choisit au contraire de nous dire la vérité, sachant que nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ. Face à nos choses de chaque jour, le Seigneur Jésus présente ses mains clouées avec les marques, ses mains au Père pour montrer que nos péchés ont été expiés, pardonnés, grâce à ce qu'il a fait à la croix. Voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers le Père. À chaque fois que nous tombons dans le péché, nous savons que nous avons un accueil sans réserve, un pardon plein et entier. Voilà pourquoi nous ne devons pas cacher justement notre péché devant Dieu, mais le confesser, l'apporter à sa lumière, le faire simplement, humblement devant lui et laisser Dieu nous purifier, nous laver de toutes nos iniquités. Telle est donc la marche dans la lumière que Jean nous propose d'avoir dans notre vie chrétienne. Cela ne veut pas dire, cela ne nous encourage pas à pécher, à vivre comme des gens qui ne connaissent pas la lumière, et nous l'avons dit, Jean nous encourage à vivre en conséquence de ce que nous croyons, de la lumière qui nous est accordée en Christ. Mais en même temps, Jean nous dit, chaque fois que nous tombons, parce que nous sommes encore, nous vivons encore dans ce monde et le péché est encore là, surtout n'oublions pas de revenir vers notre Père, qui est très généreux dans son amour à notre égard, dans son pardon, dans le pardon qu'il accorde. Dieu est lumière, nous devons vivre à sa lumière, à la lumière de sa parole, qui nous invite à venir, revenir à lui pour une vie de repentance, pour une vie de sanctification, de consécration, jour après jour. Jésus est cette lumière venue dans le monde pour éclairer tout homme, se tournant vers lui. Et dans l'évangile de Jean, il déclare, notre Seigneur Jésus déclare, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure plus dans les ténèbres. » Amen.